vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 159, Muriel Klein-Zolti, un peu de salade sucrée, merci. Alors chers amis, bonjour, c'est l'été. Un peu d'anxiété pour tous les faits de société qui vont hypothéquer notre pseudo-piété. Voici de sacrées soirées où l'on se sentira libéré des plats saucisses purées. Prenons une salade sucrée. Aujourd'hui, comme notre sujet est très sérieux, pour terminer cette saison de notre émission, vous l'avez bien connue sur Radio Judaïca Strasbourg, j'ai voulu rappeler, avant cette période de vacances, que nous avons la fantaisie de pouvoir nous démener sans contrainte ni personne, que notre émission n'est ni d'actualité, ni de religion, ni de promotion, que nous aimons tout ce qui est rigolo et sérieusement blasphématoire, et que nous nous amusons très sérieusement avec de fausses pistes. Donc, la salade sucrée, c'est le titre d'un livre, exactement le goût de la salade sucrée, et un peu comme le goût du saké, hein, le merveilleux film de japonais d'Ozu, qui raconte les relations d'une jeune dame avec ses parents et ses grands-parents qu'elle ne veut pas quitter et elle ne veut pas les laisser seuls. Eh bien, le livre « Le goût de la salade sucrée » raconte aussi une histoire de solitude. Le grand-père de l'auteur, dans la solitude de la mémoire, est Muriel Klein-Zolti, est parti sur ses traces, un juif hongrois qui s'était réfugié en Autriche et en Alsace et qui a disparu dans la Shoah. Bonjour Muriel Klein-Zolti.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, vous êtes sociologue. Vous avez fait un travail historique, mémoriel et aussi littéraire sur votre grand-père. Mais avant de vous demander si la littérature peut tenir de la thérapie familiale, j'aimerais commencer par ce titre magnifique, une fausse piste, un titre vraiment très beau, « Le goût de la salade sucrée ». Alors c'est un bel hommage à la recherche du temps perdu. Bon, alors en Alsace, on a le Melfort et le citronègre hein, pour oui, la salade oui. sucrée. Mais dans le livre, pourquoi avez-vous choisi... Alors, c'est vous qui avez choisi le titre ou c'est votre éditeur ?
C'est moi qui ai choisi le titre. Donc, ce titre, d'abord, ce n'est pas un livre de cuisine. Je veux quand même préciser les choses, comme vous l'avez très bien dit. C'est une quête mémorielle. Je suis partie sur les traces d'un grand-père dont je ne savais rien, parce que ma maman est survivante, survivante, enfant caché, et mon grand-père a disparu à Auschwitz. Donc, je ne savais rien, parce que comme beaucoup d'enfants d'enfants qui ont été cachés, ou d'enfants de déportés, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, et elle n'a rien raconté. Donc, moi, devant ce silence, je me suis dit, il faut créer un imaginaire de substitution et essayer de recoller les morceaux. Et j'avais envie d'aller à la rencontre de ce grand-père que je ne connaissais pas.
Alors pourquoi le titre, justement ? Bon, vous auriez pu appeler votre livre, comme les centaines d'autres, « Retour d'Auschwitz »,« Survivant »,« La poussière et la poudre »,« La cendre », enfin voilà.
Parce qu'il y a deux réponses. La première, c'est, c'est parce que c'était sa vie que je voulais créer, recréer. Et sa mort, non. Il y avait pour moi une certaine indécence à l'accompagner plus loin que Drancy. Donc mon livre s'arrête à Drancy. C'était vraiment la vie que je voulais. Cette vie que je ne connaissais pas.
Et dans la vie, on aime la salade.
Oui. Et pour cela, je suis allée en Hongrie chercher ses traces, rencontrer ses traces, retrouver ses traces. Et je suis partie, évidemment, avec ma mère, qui était le maillon entre moi et mon grand-père. Et quand on est arrivé à Győr, elle a eu un flash. Győr, c'est sa ville natale, ville à l'ouest de la Hongrie. On a mangé dans un restaurant. on nous a servi de la salade. Et tout d'un coup, elle me dit, mais mon papa aussi, il aimait la salade sucrée. Il mangeait de la salade sucrée. Quand il est venu en France, et à Dupikheim, qui est un petit village à côté de Strasbourg, où il s'est marié, il a rencontré une juive alsacienne, et il a donné naissance à ma maman, il rajoutait du sucre dans la salade. Et ce souvenir lui est revenu brutalement, comme une Madeleine de Proust.
Voilà. Eh bien, c'est devenu donc une fiction, votre quête, votre enquête.
Ce n'est pas une fiction.
Mais vous le... Alors, quand je dis une fiction, c'est-à-dire c'est romance. Vous avez fait un récit romanesque.
Quand on entend fiction, une œuvre d'imagination, ce n'est pas une œuvre d'imagination. C'est quelque chose. C'est un récit.
Il y avait des blancs, des
oui,
trous.
Oui, c'est un récit.
Rien.
C'est oui, mais mon parti, mon
vous
parti
avez inventé
pris,
des choses qui sont vraies. Alors.
Oui, on peut dire les choses. On peut voilà. les. On
c'est
peut les dire.
C'est Flaubert qui dit
oui,
ça.
Oui, oui. Je pense que le récit n'est pas forcément une fiction. Je suis restée. J'avais le parti pris. Je dis pas que c'était un choix. C'était un ressenti. Quand j'ai entamé cette quête, je voulais recréer mon grand-père et être au plus près de la réalité possible. Évidemment qu'il y a des blancs. Évidemment que l'écriture, elle ne comblera jamais les blancs. C'est on ne peut pas réparer. C'est quelque chose. Les blancs, ils subsistent. Et quand je suis partie, donc
vous dites les blancs et pas les vides.
Les vides, les blancs, on peut dire les mêmes, la même. Pour moi, c'est
la
pareil.
Même chose, d'accord.
Il restera toujours des zones d'ombre. Je n'ai pas. J'ai fait un récit de ce que j'avais trouvé. Évidemment, il y a des moments où j'ai eu, quand il y a un blanc, des images qui peuvent, dans une certaine mesure, combler ce blanc. Mais ces images, je les ai contrôlées, c'est-à-dire, je suis restée au plus près de ce qui me semblait être véridique.
D'accord. Alors, dans le livre, vous racontez votre démarche. Hein, la petite phrase, il a été déporté, point. Alors, vous saviez que Fonio Hugo avait été arrêté par la police française dans la nuit du 24 novembre 1944 à Joinville-le-Pont et qu'avec sa femme et sa fille, via Drancy, il avait été déporté à Auschwitz. Alors, vous racontez comment votre mère a sorti au-dessus de l'armoire de sa chambre à coucher, un dossier brun rempli de documents. Et à ce moment-là, bon, vous êtes transformée en enquêtrice.
Oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Mais est-ce que vous pensiez déjà que vous alliez écrire cela ?
Non.
Non.
L'envie d'écrire est venue progressivement.
Oui.
Ma maman, comme je l'ai dit avant, ne parlait pas, ne racontait pas son histoire, ou seulement par bribes. C'était des récits brisés de temps en temps. Donc j'ai toujours su que j'avais un grand-père juif hongrois, mort à Auschwitz. Il y avait quelques éléments dont, que je savais qu'elle avait quand même transmis, mais souvent au détour de conversations tout à fait détournées. C'est-à-dire que ça n'était jamais un discours linéaire. C'était pas « je vais vous raconter l'histoire de mon papa ». C'était par moments. Quand on passait devant le théâtre de la place Broglie, elle disait « mon père adorait le théâtre ». Et ça venait tout d'un coup par un événement extérieur ou parfois sans lien, tout d'un coup une réminiscence.
Et l'épouse de votre grand-père, votre grand-mère, elle a été arrêtée en même temps ?
Non, elle n'a pas été arrêtée parce que ce jour-là, on arrêtait les juifs étrangers. Et ma grand-mère étant une juive alsacienne, elle n'a pas été arrêtée.
Et donc non plus votre maman.
Et ma maman non plus.
D'accord.
Donc alors, la question, pour revenir à votre question, oui, les documents, une fois, j'avais le ressenti qu'il y avait plein de choses que ma mère n'avait pas dites et qu'il fallait qu'elle le sorte. Alors un jour, je lui ai dit, il y a quoi, il y a 15 ans peut-être, quand même déjà, je lui ai dit... j'aimerais bien que tu me parles davantage. Je me suis armée de courage parce que j'avais toujours peur qu'elle tombe, qu'il y ait une réaction tellement émotionnelle qu'elle bascule de l'autre côté, pour dire les choses brutalement. Donc je lui ai dit, je voudrais bien écrire sur ton papa, est-ce que tu peux m'en dire davantage ? Et tout d'un coup, elle a pris une échelle et elle est montée sur cette échelle.
Oui.
Et je me suis demandé ce qu'elle voulait. Pourquoi elle montait sur une échelle, je parlais avec les voisins du dessus, etc. Et elle est redescendue avec un dossier rempli de documents. Et elle me dit, ce dossier t'appartient, c'est l'héritage que j'ai gardé de mon père. Donc j'ai été un peu sidérée.
Et vous n'aviez pas de frères et sœurs ?
Si.
Si ?
Oui.
Mais ça les intéressait pas.
Si, ça les intéressait aussi, mais c'est moi qui ai fait la démarche. Oui. C'est moi qui ai fait la démarche. Donc, j'étais un peu sidérée de découvrir tous ces documents qui racontaient une histoire, parce qu'il y avait des documents d'artistes, les documents de son passé d'acteur hongrois, des poèmes, des coupures de presse hongroises, etc., etc.
Pour mieux faire connaissance avec vous, donc, Muriel Klein-Zolti, bon, vous écrivez sur la quatrième de couverture que vous êtes sociologue, docteur en sociologie.
Oui.
Hein, donc, c'est pas, voilà, vous n'avez pas fait juste deux années, et deux fois la première année de socio. Voilà. Et vous êtes prof de philosophie aussi.
J'ai enseigné la philosophie, oui.
Voilà. Et vous avez choisi d'être écrivain public. Mais vous étiez écrivain public avant d'écrire ce bouquin ?
Oui.
Oui.
J'ai passé quelques années à... J'ai installé un bureau d'écrivain public avec l'intuition que les gens n'arrivaient pas à écrire parce qu'ils ne trouvaient pas les mots. Les mots justes pour écrire. Donc je me suis
un peu... Mais là, c'était dans un tribunal, hein, je vous dis.
Oui, aussi dans un tribunal où, bon, là, je remplissais effectivement des papiers pour des gens qui n'y arrivaient pas. Mais c'est la partie de mon travail qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait davantage, c'est d'écrire les biographies. Et donc, l'essentiel de mon travail, c'était d'écrire les biographies de gens qui avaient envie de témoigner et qui ne l'avaient pas fait pour des raisons diverses.
Oui.
Témoigner d'une vie souvent heurtée, une vie difficile ou un parcours difficile, et ils avaient envie de mettre des mots sur ce récit. Et moi, je les aidais à trouver, effectivement, à trouver les mots et à structurer leurs pensées, à écrire leur vie.
Un ghost writer,
voilà,
un nègre.
Non, pas nègre, parce que j'aime pas ce mot d'abord.
Oui, ah, oui. Moi j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être nègre de
oui,
gens.
Oui. Oui, ça dépend ce qu'on entend par nègre.
Parler avec la pensée des autres, c'est ça la liberté.
Se mettre à la place d'eux, c'est un peu comme un acteur. Un acteur qui joue un rôle.
Oui.
J'entrais dans la peau.
C'est de voler les idées des autres et de... C'est un peu le sens de l'imposture, c'est pas mal aussi ça, non ?
Je me les appropriais tout en étant...
La maman et la putain, oui, voilà, oui. Je cherchais de Jean Eustache.
Tout en tentant de rester...
Qui dit ça.
Je dirais pas que je volais, j'essayais de m'identifier à la personne.
D'accord,
de rester au plus proche, de me mettre à la place.
Oui, oui, alors que le nègre, il prend de la matière
et
c'est de la technique.
Bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
C'est pas vraiment...
Je faisais également le travail de recherche quand il s'agissait de compiler, de regarder
donc,
si le discours était vrai.
Mais alors, c'était sur quel sujet
J'ai écrit les souvenirs d'une prostituée, par exemple.
Comment il s'appelait, un journaliste de Libé.
Ça n'a pas forcément...
Enig, qui a écrit un bouquin formidable là-dessus. J'ai lu ça il y a 30 ans ou 40 ans. Oui.
Ça n'a pas forcément toujours été publié.
Et ça a été publié ?
Non, c'était des récits souvent familiaux également. Les gens ne souhaitaient pas le publier pour des raisons personnelles, quand c'était trop personnel.
Et là, vous êtes rémunéré pour le faire ?
Oui, c'était mon truc, c'était effectivement.
Comment il s'appelle Sorge Chalandon, grand écrivain, journaliste de Libé, aussi. Il raconte un peu comment il a fait ça pour, en Irlande pour quelqu'un. Et puis tout d'un coup, il s'est aperçu que le type... et il a dit non, j'arrête, je ne fais plus. Je ne suis plus d'accord avec ce que vous me racontez.
Ça m'est arrivé aussi.
Oui. Mais alors, la jubilation, dans ma petite expérience... C'est de faire le nègre, alors moi j'aime bien le mot, de quelqu'un avec qui vous n'êtes absolument pas d'accord et vous trouvez plein.
Oui.
Non, ça vous...
Ça m'est arrivé, mais j'avais quand même des garde-fous éthiques. C'est-à-dire, si c'était quelqu'un d'extrême droite, j'aurais eu du mal. Je peux le dire sur cette radio
justement,
aussi.
Moi,
je ne pourrais pas me mettre dans la peau parce qu'il y a un minimum d'empathie. Et dans ce cas-là, je n'aurais pas eu cette empathie.
Oui.
Donc je n'aurais pas... Ça m'est arrivé, j'ai refusé.
Ouais.
Parce que je sentais que je ne pouvais pas le faire. Et vous auriez pu ?
Oui.
Si je renvoie la question.
Pour l'exercice de style, c'est faire un argument. Alors je suppose que ça doit être des exercices de communication politique ou ça. C'est de prendre les arguments de l'autre et essayer de les défendre contre votre propre avis.
Jusqu'à un certain point, mais pas au-delà.
C'est un jeu d'écriture, en fait.
Bien sûr, mais pas uniquement. Parce qu'on doit quand même se sentir plus ou moins en accord avec l'argumentation.
Oui, bien sûr. Après,
sinon, on ne peut pas le faire.
Mais ça, en même temps, ça me renvoie à l'art poétique de Boileau, qui explique que la rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Vous devez faire quelque chose qui est beau, qui est bien un truc, peu importe le fond.
Mais je suppose que si on vous avait dit d'écrire un discours raciste, vous l'auriez pas
non,
fait.
Non, puis en plus, c'est contre la loi, c'est un délit et tout. Oui, non, pas. Non. Non, mais en même temps, il y a
dans
des gens...
Dans ce discours d'extrême droite, il y avait des éléments qui portaient à ça. Donc,
oui, alors moi, ça m'est arrivé de travailler avec quelqu'un d'extrême droite qui connaissait très très bien Brasillach, qui était pour moi un sujet fabuleux, qui n'aurait pas dû être fusillé par De Gaulle, mais il l'a été. Son histoire du cinéma, spécialiste de Virgile. C'était fabuleux de faire ça avec lui, alors que c'était un facho, quoi.
Bien sûr.
C'est compliqué, mais ça n'a pas été publié non plus. C'était, voilà. Bon, après cette belle digression sur l'art d'écrire, bon, on peut toujours définir son œuvre passé et à venir d'une certaine façon. Mais vous avez quand même une constante, hein, c'est la mémoire collective.
Oui. Oui.
Alors c'est quoi ? C'est parce que collectif, c'est un travail de sociologue là. On
oui,
en revient,
là c'est en tant que sociologue.
C'est en tant que sociologue.
Bien que mon livre, cette salade sucrée, c'était plus la mémoire personnelle, la mémoire familiale,
c'est pour ça que je pose la question.
Qui s'intègre bien entendu dans une expérience collective.
Ben, je vais en profiter pour donner le nom de l'éditeur, édition Ampelos. Oui. Donc le goût de la salade sucrée, on est sur Radio Judaïque Strasbourg et donc c'est Muriel Klein-Zolti qui nous parle. Alors donc en tant que sociologue, vous parlez de la mémoire collective, mais attendez, il y a 10 000 bouquins sur Auschwitz et sur Oradour et sur...
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous apportez de plus ? Enfin, je dis ça de façon un peu insolente.
D'abord, mon livre n'est pas un livre sur Auschwitz. Non. Comme je vous ai dit avant, je me suis arrêtée avant.
Oui.
D'autre part...
C'est très fort d'avoir fait ça.
Oui, je ne voulais pas rentrer dans Auschwitz.
Mais c'est une superbe maîtrise. Ça, c'est un travail d'écrivain, quand vous avez fait ça. Ah oui, c'est un choix d'écrivain.
Oui, sans doute. C'est pas un choix.
C'est venu tout seul, mais quand même. C'est vos tripes, mais quand même.
C'est mes tripes.
D'accord. Mais alors, j'en reviens là. Donc, la mémoire collective, c'est quoi alors, aujourd'hui, en 2026 ?
La mémoire collective, alors ça dépend, quand on fait un travail de sociologie, c'est d'aller interviewer un groupe humain et de voir des constantes dans leur manière de réagir à un événement, de voir quel est le poids de l'histoire sur leur manière de se comporter. Et c'est le travail d'un sociologue.
D'accord. Mais c'est publié ensuite ? C'est un travail
universitaire ? Ça dépend.
C'est un travail universitaire ?
Ça peut être publié dans des revues spécialisées. Ouais. Dans ce cas-là, c'est pas forcément... Vous parlez de littérature. Moi, ce que j'ai voulu dans mon livre, c'est peut-être trouver les mots. C'est-à-dire que je me suis lancée effectivement dans... Je sais pas si c'est une œuvre littéraire, mais c'était quand même l'objectif. Mmh. J'ai passé beaucoup plus de temps à chercher les mots... qu'à chercher les renseignements
alors,
historiques.
Justement, alors, c'est exactement ça en feuilletant. Non, j'ai lu quand même cette nuit, je dois le dire, votre livre, puisque je viens de le recevoir. Ça m'a fait penser à Michel Audin, vous voyez, donc, de Louis Pau, la prof de maths qui était à Strasbourg et qui a écrit La maison hantée.
Oui,
vous l'avez lu ?
Je ne l'ai pas encore lu. Les livres à lire.
C'est le livre, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Strasbourg. Elle a tout inventé.
Oui.
C'est une démarche. Mais elle a tout inventé à partir de 300 bouquins qu'elle a consultés à la BNU.
Oui.
C'est comme Flaubert avec Salambo.
Oui,
hein, il a tout inventé. Mais donc, c'est une démarche aussi, quand même, délibérément d'écrivain.
Oui.
Et il n'y a peut-être pas pire que les livres qui sont publiés, issus d'une thèse de 950 pages. Qu'on a essayé de résumer. Alors, les 950 pages, bon, c'est impossible à lire parce qu'il faut être un spécialiste, parce qu'il y a 600 pages de notes de pas de page ou de référence. Et après le résumé, la thèse, elle est peut-être formidable avec tous les applaudissements du jury, mais le bouquin, il est comment on dirait en bon français, illisible. Enfin, imbitable, quoi.
Oui, oui.
Donc, voilà. Alors que certains. Si vous faites la démarche de donner vos 900 pages à quelqu'un comme vous qui fait un travail d'écrivain, vous prenez les pages et vous réécrivez cela d'une autre façon et ça peut devenir un roman formidable. Et il y a des romans qui sont issus de thèses, hein, qui sont très bien.
Oui.
Mais c'est une autre démarche alors.
Bien sûr.
Oui.
Quelle est votre question ?
Ma question, c'est Vous sembliez être réticente à la fiction.
Non, je ne suis pas du tout réticente. Je comprends très bien qu'on puisse écrire une fiction.
Oui.
Simplement, ce n'était pas ma démarche. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je pense que la littérature ne se réduit pas au récit fictionnel, même si ça en fait partie, évidemment. Moi, je n'ai pas pris ce parti-là parce que je ne l'ai pas senti.
D'accord.
Il y a, quand on écrit, pas forcément un choix. C'est un besoin.
D'accord. Alors, Muriel Kleinzolti, vous avez fondé le cercle Vladimir Rabinovitch.
Rabbi.
Les lecteurs du journal Libération, on en a déjà parlé, ils connaissent bien Vladimir Rabinovitch parce qu'il était l'avocat de Pierre Goldman.
Voilà.
Qui était le militant violent, la prison, les pharmaciennes, et il est devenu journaliste après la prison, avant de se faire tuer. C'est quoi cette histoire de cercle Rabinovitch ?
On a voulu, il y a maintenant, je crois que ça datait des années 86 à peu près, créer un cercle culturel à Strasbourg. Alors pourquoi Vladimir Rabbi ? Effectivement, Vladimir Rabbi était un juriste qui défendait des positions éthiques du judaïsme. Et on l'a entendu parler à Strasbourg. Moi, on était trois ou quatre à avoir ce besoin. Mmh. Et donc, il est mort tout de suite après. Il s'est tué en voiture. Et on s'est dit, ce nom est important, on va le mettre, on va créer une association. On avait besoin de créer une association culturelle où on ne fasse pas uniquement de la religion, pas uniquement une association religieuse, mais une association qui donnerait toute sa place à l'expression du judaïsme sous ses formes les plus variées, c'est-à-dire la culture juive, c'est-à-dire le yiddish, c'est-à-dire les chants yiddish, c'est-à-dire le ladino, etc.
D'accord. Et toute l'histoire. Et donc juive. Le cercle existe toujours
Non, il est rentré en dormance il y a quelques années.
Ah, c'est joli, il est rentré en dormance. Oui. Voilà.
Il existe potentiellement encore.
Bon, pour en revenir à l'Alsace, vous avez travaillé avec Freddy Raphaël et Simone Pollack.
Oui.
Oui. Donc ça, c'est des noms très connus en Alsace, voilà, c'est ça. Et est-ce que vous aimez la familiarité ? Parce que Freddy Raphaël et Simone Pollack, est-ce que vous avez une déférence envers eux ou ce sont des amis ?
Freddy Raphaël était mon directeur de thèse, donc
d'accord,
c'est quelqu'un que j'estime.
Oui.
Non, mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mm-hmm. On ne se voit pas souvent, mais je continue à l'estimer, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Oui. Et Simone Pollack, vous avez travaillé avec elle, vous avez écrit
avec elle.
Je dirais
que je la connais depuis toujours.
Ah ben voilà. Donc, parce que dans le bouquin, vous tutoyez votre grand-père.
Oui. Mais vous voulez que je vous voie ? C'est pas possible, on ne voit pas un grand-père.
Mais vous vous adressez à lui, quoi.
Parfois, donc, je l'engueule, même.
C'est pas il, oui,
oui
c'est
oui.
ça.
J'avais envie de mettre un lien d'intimité avec cette ombre.
Oui.
Même en lui donnant un visage, j'ai appris à le connaître.
Oui, mais alors ces ombres, moi j'ai eu l'impression que tous vos personnages étaient très religieux.
Religieux ?
Oui.
Comment ça, religieux ?
Religieux, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de mystique derrière, ou une spiritualité. Vous lui prêtez quand même quelque chose de...
Non, enfin, je pense que mon grand... Non, je ne pense pas, je sais que mon grand-père a une éducation religieuse, mais comme beaucoup de juifs de cette génération, il est devenu laïque, il s'est détaché de la religion en adhérant à des mouvements politiques de gauche, la gauche étant importante au début du XXe siècle, oui. Il voulait changer le monde, etc. Il n'était pas communiste, il était plutôt socialiste, proche d'un personnage tout à fait extraordinaire, qui était le comte Károly, en Hongrie, dans les années 20,
oui.
qui a été président de la République un certain temps, avant Béla Kun. Et donc, c'est quelqu'un de très intéressant.
Et ça, vous avez retrouvé...
C'était le Kerensky hongrois, en gros. Ah. En gros, pour simplifier.
Oui. Mais alors ensuite, en Alsace, là, vous commencez donc avec Düppingheim.
Oui, alors, il a fini son itinéraire d'exil, parce qu'il a quitté. Il a quitté la Hongrie au moment de Horthy, qui était un antisémite dictateur. Mmh. Il a quitté en tant que juif, bien entendu, en raison de l'antisémitisme, mais aussi en tant qu'opposant politique. Mmh. Donc il va d'abord à Vienne, où il découvre une capitale culturelle extraordinaire. Ensuite Paris, parce qu'il avait l'amour de la France, comme beaucoup d'étrangers. Et ensuite, j'ai trouvé un contrat de travail à Paris, et à Strasbourg, chez M. Bergmann, qui avait une entreprise de tapisserie au début du XXe siècle.
Bon,
et dont je n'ai pas trouvé de trace.
Ce que je voulais dire, c'est que Düppingheim...
Alors pourquoi Düppingheim ? C'est parce qu'il a rencontré une jeune fille qui deviendra ma grand-mère, qui était une juive alsacienne, et ils sont certainement tombés amoureux puisque se sont mariés.
Bah oui. Et c'est Düppingheim, c'est derrière l'aéroport d'Ensheim.
Voilà, c'est...
Voilà. Donc, c'est comme si vous alliez décoller dans les nuages pour être plus près du bon Dieu.
Voilà, on
donc,
peut
c'est
dire.
Pour ça que je vous parlais des trucs religieux.
D'accord.
Donc,
oui.
Voilà, c'est une petite astuce.
Oui.
Alors, juste encore une dernière question. Cette idée de distanciation, alors je m'adressais quand même à la sociologue, vous avez quand même écrit ce livre avec vos tripes.
Oui,
hein,
complètement.
Oui, complètement.
Il n'y a pas de distanciation.
Oui, donc vous avez écrit
j'ai,
une
c'est
histoire
moi.
De famille.
C'est quoi. Vraiment moi qui
oui,
m'exprime.
Oui, mais vous n'avez pas tiré à 10 exemplaires dans une photocopieuse. Vous avez fait un vrai livre qui
oui.
a été tiré...
oui, qui a été tiré par un éditeur.
Par un éditeur, et on va le retrouver.
D'ailleurs, un éditeur protestant à qui je voudrais rendre hommage, parce qu'il
oui.
publie beaucoup de livres protestants, mais aussi toute une partie sur les justes qui ont sauvé les juifs, et aussi sur des livres de mémoire, sur la mémoire juive, et c'est la raison pour laquelle il a pris le mien.
C'était l'épisode numéro 159 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, Muriel Klein-Zolti, un peu de salade sucrée, merci. Et alors toujours ma dernière petite phrase, vos enfants savent que leurs grands-parents étaient des enfants cachés pendant la guerre, est-ce qu'ils vont transmettre votre recherche à leurs propres enfants?
Oui, mes petits-enfants sont tout petits. Il y en a un qui vient de naître, il a 6 mois, il est un peu... Non, qu'est-ce que je raconte, il en a même que 2. J'ai une autre petite fille qui a 2 ans. Je pense que c'est un peu tôt quand même.
Ah, oui,
mais
d'accord,
il commence
mais enfin,
déjà.
Vous, portez, vous avez sûr. Des espoirs sur
oui.
cette transmission.
Oui, oui.
Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Voilà, c'était le dernier épisode avant la pause de l'été. Vous aurez le plaisir de bénéficier de belles rediffusions et de toutes les envolées de nos invités très tourbillon et papillon. Et à la rentrée de septembre, on va d'abord dans la cuisine insolite d'une artiste gastronome, Lubna Liverneau, qui reviendra du Japon avec le goût du saké. Et puis un petit tour en Géorgie avec une étudiante strasbourgeoise, Mariam Tolordova. Bonnes vacances à tous, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin.
Fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.